Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les lundis, c'est l'actualité littéraire. Et aujourd'hui, je reçois Anne Poli pour son premier roman paru chez Verdier, Avant que j'oublie. Texte intimiste et autobiographique où l'écrivaine raconte la mort de son père tout en essayant de dresser son portrait. Il était tout à la fois Attila et amant fragile, racaille unijambiste, roi misanthrope et père poule. C'est l'histoire d'un homme abîmé par la vie, raconté par sa fille qui s'apprête à vivre désormais sans lui. Ce premier roman a été salué comme il se doit par la critique. Il a aussi reçu le prix envoyé par la poste de la fondation La Poste. Avant que j'oublie, de Anne Poli, c'est un coup de cœur partagé avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, également présente avec nous ce matin. Le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Éric Boissé.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Le soir où mon père est mort, on s'est retrouvé en voiture avec mon frère parce qu'il faisait nuit, qu'il était presque 23 heures et que, passé le choc, après avoir bu le thé amer préparé par l'infirmière et avalé à contre-cœur les morceaux de sucre qu'elle nous tendait pour qu'on tienne le coup, il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer. Finalement, avec ou sans sucre, on avait tenu le coup. Pas trop mal, pas mal du tout même. D'ailleurs, c'était bizarre comme on tenait bien le coup. Incroyable, si on m'avait dit. On avait rangé les placards, mis la prothèse de jambe, le gilet beige, les t-shirts et les slips dans deux grands sacs Leclerc, plié la couverture polaire verte tachée de soupe et de sang, fait rentrer dans la boîte à médicaments une boîte à sucre décorée de petits bretons en costume traditionnel, le crucifix de poche attaché à un lacet, à une médaille de la Vierge, à un chapelet tibétain et à un petit Bouddha en corne. Bonjour Anne Poli.
Bonjour.
Avant que j'oublie, donc, c'est le titre de votre premier roman et ça raconte la mort, l'enterrement et le deuil du père par sa fille, puisque vous êtes la narratrice. Et très vite d'ailleurs, on sait que Anne Poli est la narratrice, la fille de cet homme qui meurt dès la première page.
Oui, alors c'était un peu une volonté de raconter, en tout cas de faire correspondre le nom de la narratrice avec le nom de l'auteur et le nom du personnage du père avec le nom du père dans le réel, parce que c'était évidemment un ouvrage de mémoire et je voulais, c'était porter la mémoire de cet homme et dans la fiction, mais aussi dans la réalité. Voilà, c'était un flambeau, ce livre, à porter.
Parlez-nous de ce père. Vous voyez bien que je n'ose pas dire de votre père, mais du père tel que vous l'avez décrit dans votre texte, Anne Poli.
Alors, c'est un personnage de père comme il y en a tant, j'imagine, qui est à la fois qui est tout en contradiction et en ambivalence. Et évidemment, c'est le portrait d'un parent depuis les yeux d'un enfant. Donc, c'est aussi un portrait qui...
Pourquoi elle a quel âge, là, Anne Poli, du livre ?
Elle a une quarantaine d'années. Mmh. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était que dans une période de deuil, au moment des bilans qu'impose la mort, il s'agit un peu de démêler le vrai du faux, les apparences du réel. Et quand un enfant essaye de décrire son parent, il a évidemment des choses qu'il a vues, des apparences, mais l'enquête serait pas complète, si je puis dire, s'il n'y avait pas...
Et en même temps, vous racontez la mort, l'enterrement, toutes les formalités à faire.
Oui, je raconte tout ça parce que c'était dans le réel, pour le coup, c'est des espèces de protocoles qui m'avaient paru tout à fait absurdes et comiques, à un moment aussi tragique que la mort. Ces choses-là semblent vraiment drôles et au départ, ce livre, c'était d'écrire cette absurdité, ces moments absurdes qu'engendrent la mort. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est transformé en tombeau, en portrait, en enquête. Et voilà, donc il y avait aussi tous ces éléments à décrire qui me semblaient... Les gens se hérissent quand je dis ça, mais plutôt drôle en réalité.
Ouais. C'est un texte intimiste, je le dis, parce que vous parlez de vous, des personnages qui partagent votre vie, de votre famille, d'un événement qui a dû être très marquant, Anne Poli. Et pourtant, effectivement, il s'adresse à tout le monde. Ça reste quand même un texte qui a été travaillé, je ne sais pas si c'est le mot, pour qu'il soit lu par... par les autres.
Alors en réalité, on peut pas dire que j'ai extrêmement cherché à ce que ce soit. J'ai cherché à ce que ce soit, en tout cas, des phrases précises avec des mots précis et des choses qui fassent rire, mais parce que c'est aussi ma position dans le monde, c'est-à-dire que le tragique, souvent, je trouve moyen de m'en amuser. Voilà. Et est-ce que je l'ai beaucoup travaillé pour que ça fasse rire? Non, c'est une écriture qui s'est déroulée par association, en fait. J'ai commencé à tirer un fil, puis un autre, et puis c'est un peu venu tout seul. Alors, les gens me posent la question souvent de savoir si l'humour qu'on perçoit et les changements de ton, les espèces d'embardés stylistiques qu'il y a dans ce livre, sont volontaires. En réalité, j'ai pas cherché à faire tim-boum à la fin des paragraphes exprès, c'est un peu sorti comme ça.
Mais depuis le début, vous saviez que ce texte, ce témoignage, allait être lu, c'était destiné à être publié.
Oui. Oui, mais en quoi il fallait que ce soit lisible? Je sais pas, j'ai raconté les étapes, si vous voulez.
Vous racontez donc la mort du père, et puis il y a un moment très très poignant, c'est quand il faut ranger les affaires. Mmh. Et là, vous posez la question, mais qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Est-ce que cette lettre anodine est vraiment anodine? Est-ce que vous vous êtes posé aussi les mêmes questions quand il fallait écrire ce récit, cette expérience? Qu'est-ce que je mets dans ce livre? Et qu'est-ce que je garde pour moi? Quel est l'intime que je peux rendre universel ou du moins public dans un roman? Et qu'est-ce que je garde pour moi?
La question s'est pas vraiment posée en réalité. C'est-à-dire que des choses m'ont semblé saillantes tout au long de. En fait, j'avais pour écrire celui-là, j'avais une espèce de feuille de route. Constitué d'étapes avec des moments saillants. Les inventaires, je voulais les faire, parce qu'il y a beaucoup d'inventaires dans ce livre, des objets par milliers qui sont évidemment mis les uns à la suite des autres, et par effet de contraste, ça produit à la fois de la drôlerie et à la fois du tragique, parce que c'est toute la vacuité des affaires de quelqu'un qui a été là mais qui n'y est plus.
Donc ça, c'est pour l'inventaire.
Ouais, voilà. Et pour ce livre, c'est pas une question que je me suis vraiment posée, de savoir ce qu'il fallait raconter ou pas raconter. C'est un livre qui a été écrit avec j'avais une feuille de route avec des moments saillants que je voulais à tout prix décrire, qui m'avaient semblé soit drôle, soit amusant, et après la question de l'intime dans tout ça ne m'a pas forcément effleuré. Enfin, j'ai eu l'impression de raconter ce que j'avais à raconter. J'ai pas eu l'impression de dire ça, faudrait plutôt le garder. Après, c'est aussi une écriture qui est pudique, c'est-à-dire qui essaye de pas se vautrer dans quelque chose, qui essaye de rester un peu sur son quant à soi quand même, en dessinant et en suggérant plus qu'en décrivant.
Et finalement, de rester dans l'intime du début jusqu'à la fin, parce que à un certain moment, on suppose que vous allez parler aussi du milieu social d'où vient votre père, tout ce qu'il a subi dans sa vie, parce que il y a un côté inventaire, ça vous l'avez dit Anne Pauline, mais il y a aussi un côté qu'est-ce qu'il a traversé comme moment, comme siècle, votre père.
Oui, voilà. Alors, c'était important, voilà, quand on est un enfant, de remettre en contexte la vie de ses parents. Souvent, quand on est enfant et ado, on dit vraiment, ils sont nuls, ils comprennent rien, ils sont excessifs. Et puis après, quand on est adulte,
ils sont violents,
mmh. Ils boivent comme des trous, etc. Et puis, en vieillissant, on comprend que tout ça, évidemment, c'est lié à un contexte, à des circonstances, à un milieu d'origine. Donc, je voulais redécrire cet endroit d'où venait le.
Mais non, mais ce qui est fort dans votre livre, c'est que vous le dites, vous le suggérez beaucoup plus qu'autre chose, mais jamais ça ne devient une explication pour expliquer le caractère de votre père, ce vieux père carcasse, comme vous l'appelez.
Oui, alors il s'agissait pas de tirer des conclusions définitives. En fait, c'était justement émettre des hypothèses. Par exemple, pour la violence, il s'agissait pas de l'excuser, mais il s'agissait d'essayer peut-être de la comprendre, de comprendre d'où elle venait. Est-ce qu'elle venait pas finalement d'un empêchement social, d'un mépris social? C'était une époque aussi où les hommes devaient être forts, conquérants, brillants, virils, et puis finalement j'imagine qu'ils ont été des tas à échouer à cette épreuve. Donc voilà, je voulais un peu essayer de faire le tour de la question, si je puis dire.
Un père que vous avez aimé, Anne Pauline,
oui,
que vous aimez toujours d'ailleurs malgré tout.
Énormément, oui, énormément. C'était comme c'était aussi une histoire compliquée, cette histoire familiale.
D'où le malgré tout, ouais.
Et que souvent, comme dans les familles, les choses compliquées, on ne veut pas en parler, on les met sous le tapis, dans l'armoire, dans le placard.
Et vous avez décidé de le mettre dans un livre.
Moi, j'ai dit que ce serait mieux pour tout le monde de le mettre dans un livre. Ah. Et que comme ça, on se serait bien souvenu une dernière fois avant d'oublier complètement.
Je vais vous demander de lire un extrait parce que c'est votre premier roman. Je rappelle, édité par Verdier, avant que j'oublie, Anne Polly.
Il faisait froid mais beau. Un joli ciel bleu franc avec quelques nuages et un soleil d'hiver. Je me suis accoudée un instant à la passerelle de bois reliant la maison à l'escalier, là où il aimait se tenir pour fumer et observer les mouvements de la lumière dans le feuillage et les allées et venues des petits oiseaux. Là où nous avions eu parfois, en tirant comme des malades sur des clopes jamais assez fortes, les conversations les plus profondes et les plus banales, et où les silences qu'elles avaient parfois engendrés s'étaient naturellement transformés en séances de contemplation intense de la nature en contrebas. À cet instant précis, j'aurais donné n'importe quoi pour un dernier moment comme ça avec lui, à ne rien se dire de spécial en regardant dans le vide.
Avant que j'oublie, Anne Polly, aux éditions Verdier. Parlez de vous, de la relation avec votre famille, parce que il y a bien sûr le portrait de ce père, puisque c'est le fil narratif de sa mort, son enterrement, le rapport qu'il entretenait avec ses enfants et très particulièrement avec vous-même. Mais à travers lui, il y a aussi la mère qui, elle, a disparu bien avant. Il y a aussi le frère, le neveu, la famille, votre ami, votre amoureuse. Tout cela est dans ce livre.
Oui, alors évidemment, c'est une galerie de personnages. C'est qui est là le jour où le pire vous arrive, où la mort vous tombe dessus. Donc il y a tous ces gens, alors les gens de la famille. Alors la mère déjà décédée, mais qui tout au long du livre apparaît un peu en bonne fée, enfin une espèce d'esprit bienveillant qui veillerait sur la situation. Et puis le frère, taiseux, distant, en colère. Alors ça, c'est amusant parce qu'évidemment, mon histoire, elle est singulière, mais elle correspond à d'autres histoires, à la fois universelles, puisque des tas de gens m'ont dit « mais enfin, ce frère, c'est le mien, mais enfin, ce frère, c'est moi ». Voilà, ça a suscité quand même des espèces d'identification. Il y a les proches qui, voilà, donc c'est ce proche-là en l'occurrence qui est assez fuyant, ou d'autres qui au moment où ils devraient être là sont justement pas là. On a besoin d'eux, on a besoin dans des épreuves comme ça d'être entourés, et il y a des tas de moments où les gens se dérobent en réalité. Donc finalement, je me demande si j'ai pas gardé dans ce roman que les personnages qui étaient là pour de vrai.
À quel moment, Anne Polly, vous avez l'idée d'écrire, à partir de cette expérience, un livre?
En fait, c'était pas tellement prémédité, cette histoire-là. C'est que vous savez, moi, je voulais écrire depuis que j'étais enfant. Et puis, ça s'était pas très bien déroulé pour moi. J'étais un peu chassée du royaume des lettres au moment où j'arrive en prépa, on me dit que j'ai rien à faire là. Enfin bon, des tas de choses comme ça. Je voulais écrire depuis toujours. Et puis, j'arrivais jamais à monter dans le train de l'écriture. Et puis, donc j'ai fait tout un tas de choses pour que ce problème soit résolu, notamment de postuler au master de création littéraire de Paris 8. Mmh. Il fallait présenter un projet.
Avec Vincent Message.
Avec Vincent Message, Olivia Rosenthal, Christine Montalbetti, etc. Et donc je n'avais pas de projet à présenter, et donc je me suis mis devant ma feuille, et je me suis fait confiance, et c'est ces premières pages qui sont sorties. Et au départ, je me disais, bon, c'est pour le projet, je vais présenter ça, on verra. Et en fait, pas du tout. Ce truc a continué, et finalement, c'est devenu un livre au fur et à mesure.
Parce que la mort de votre père était proche, ou au moment où vous décidez de parler de cette période bien précise, c'est-à-dire la mort, l'enterrement?
C'était pas très loin dans le temps. Mais quitte à raconter quelque chose, il fallait raconter quelque chose d'un peu marquant, ou en tout cas quelque chose d'un peu saillant, pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, pour que ça marque un lecteur, ou que ça puisse intéresser quelqu'un. Et comme finalement il y avait beaucoup de romanesque, en tout cas de rocambolesque dans toute cette histoire.
Oh, il y a beaucoup de romanesque. Votre père, vous réussissez à le rendre romanesque.
C'est un héros, c'est un peu, ouais. Oui, c'est ça.
Et ce qui est bien, c'est qu'il garde aussi ses mystères à la fin du livre.
Ouais. Oui, on peut pas tout savoir de quelqu'un. On peut en avoir des aspects. Il y avait une forme de puzzle à la fin du livre. Alors tout le début concerne un peu les apparences. Ce père que les gens connaissaient ou pas avait sur lui des apparences, même ce que la fille elle-même en connaissait, qui était très partielle. Finalement, cette connaissance s'épaissit avec une lettre qui arrive à la fin et qui permet à la narratrice de boucler la boucle en quelque sorte, et de revenir sur ce personnage de père qui était peut-être dans les apparences quelqu'un de violent et irréfléchi, de rustre, de taiseux, mais au fond qui était peut-être un poète empêché par des tas de choses, un travail, une époque, un milieu social.
Les livres servent à quoi pour vous, Anne-Poly, par exemple, quand on vit une situation comme vous la racontez dans ce livre, c'est-à-dire la perte d'un père? Est-ce que les livres servent à quelque chose?
Oui, alors les livres, pour ma part, sont souvent des endroits où je cherche des réponses. Très souvent, je cherche des réponses dans les livres. Je vois que tel livre parle de tel sujet et j'y vais. Je vais voir ce que tel auteur aura dit de telle chose ou telle chose. Et souvent, j'en trouve. Et peut-être que, sans vraiment le vouloir, j'ai fait un genre de vade-mecum pour ceux qui viendront après moi et qui perdront leurs parents. Il y a des proches et des moins proches qui m'ont écrit pour me dire que eux n'avaient pas perdu leurs parents, mais que ce livre leur avait permis d'avoir un avant-goût de...
Alors du coup, quels sont les romans qui sont très importants pour vous, qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé peut-être à écrire ce roman, mais bien avant d'écrire ce premier roman, Anne-Poly a affronté les affres de la vie?
Ah bah c'est assez innombrable. Enfin ils sont innombrables. Je sais plus. J'ai beaucoup lu des choses un peu à la marge. Moi j'ai beaucoup lu de littérature gay, notamment par exemple Denise Cooper, Bruce Benderson. Voilà des auteurs un peu comme ça. Amistad Maupin. Plus récemment, pendant l'écriture de ce livre, finalement j'ai pas lu beaucoup de choses pendant l'écriture de ce livre, pour pas m'auto-bloquer, c'est-à-dire des gens qui ont écrit sur le deuil, il y en a plein, mais je voulais pas non plus être là devant ma feuille à me dire, mais mon Dieu, ces gens ont écrit toutes ces merveilles, et moi, qu'est-ce que je fais avec cette petite histoire? Donc j'ai notamment lu un livre de Lydia Flemm, qui s'appelle « Comment j'ai vidé la maison de mes parents », qui est un livre, qui est un récit comme ça d'une psychanalyste qui décide de donner les objets qui appartenaient à ses parents, plutôt que de les jeter ou de les vendre. J'ai lu pas mal Janet Winterson aussi. Ça s'appelle « Comment on peut être heureux quand on peut être normal ?» C'est à l'Olivier. Et voilà, c'est l'histoire aussi d'une auteure-narratrice qui parle de sa mère qui a été plutôt maltraitante, mais qui, dans tout ce livre, cherche à savoir pourquoi cette femme était si rude avec elle et si bigote et si folle, en réalité, et pourquoi elle l'a fait souffrir.
Voilà. Ça donne envie, votre bibliothèque idéale, Anne-Poly. Ceci dit, je vous pose cette question parce que votre livre est remarquablement bien écrit, il est littéraire, avant que j'oublie. Vous traversez donc ce moment tragique et en même temps inévitable de la vie, et ce n'est pas un livre qui vient à votre rescousse, c'est une chanson de variété. Et du coup, à cause de vous, ou grâce à vous, pour la première fois, on va écouter Céline Dion sur France Culture.
Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père.
Je voudrais voilà, parler à mon père. C'est un moment tragique et très beau dans votre roman Avant que j'oublie, Anne-Poly.
Alors en fait, j'ai choisi de parler de cette chanson de Céline Dion qui s'appelle Parler à mon père, donc pour plusieurs raisons. D'abord parce que la musique c'est très important dans ma vie, j'ai fait beaucoup de radio, j'ai parlé beaucoup de pop culture, tout ça, donc la musique surtout pop m'accompagne dans ma vie et je trouvais ça dommage de pas en faire profiter mes lecteurs.
Pas dans le genre branché pop, mais populaire quoi.
Oui, alors ça c'est des distinctions subtiles, comme vous savez. Après, on peut dire que la populaire, Céline Dion, c'est vraiment le commun aussi. C'est-à-dire, si je vous dis je veux chercher ton âme dans le froid, dans les flammes, vous savez exactement tout de suite que c'est... Oui, ouais. Vous le savez tout de suite.
Anne-Poly, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis journaliste, secrétaire générale de la rédaction dans un magazine féminin. C'est-à-dire que je corrige des textes qu'on m'envoie, je les mets en forme, je les rattrape, je les répare, en quelque sorte.
Pour réparer les textes?
Je répare des textes tous les jours. Alors, c'est des textes sur des thèmes variés, mais sur des sujets de société, ou bien parfois, aujourd'hui, j'avais à gérer un texte sur le shampoing, voyez. Donc,
Et on entend le rire d'Auriane Joncourt. Auriane Joncourt, bonjour.
Bonjour, tant que vous ne me faites pas chanter Céline Dion, tout va bien.
Anne Poli, avant que j'oublie, ça a été un de vos coups de cœur de la rentrée.
Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, un des vrais bons premiers romans de cette rentrée, et ça m'a fait penser, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est cette période que vous racontez, c'est-à-dire juste après la mort, ces fameuses périodes de deuil qui, d'ailleurs, dans certaines religions sont véritablement sacrées, et là vous y allez justement pas avec un pas sacré, mais avec un pas, vous l'avez dit,
même assez... Si le sacré est présent, et assez moqué d'ailleurs.
Voilà, avec un pas assez libre et visiblement qui vous ressemble. Et ça m'a fait penser beaucoup à ce livre que j'aime beaucoup de Peter Handke. Dieu sait qu'on parle de lui en ce moment. Le malheur indifférent, où il questionne justement sa mère. Et sa mère, qui était un peu comme votre père, indéchiffrable. Une femme assez empêchée, comme vous le dites, assez malheureuse. Et il revient sur cette vie en effet d'un milieu d'ouvrier. Qu'est-ce que ça signifie? Et à côté de quelle vie elle est passée aussi? Et ça, je trouve que c'est une très belle question à se poser.
Et ça se termine quand même avec une scène de vie, dans la nature, avec une pie, avec la famille reconstituée. Alors, quand je dis la famille, Anne Poli, vous insistez, au fait, sur votre homosexualité dans ce roman?
Oui, alors j'insiste, disons que c'est pas le sujet de ce roman, mais en l'occurrence, c'est l'endroit depuis lequel je parle. Et ce qui est amusant, enfin ce qui n'est pas tellement, qui ne l'a pas tellement été, c'est qu'au moment de ce deuil, on a eu à peu près au même moment les débats, les fameux débats sur le mariage pour tous. Et donc ça a eu un écho très fort au moment où je vivais ce deuil, cette espèce de mépris social dont on a été, dont la communauté LGBT a été l'objet, et avec un mépris social des gens qui décidaient pour nous, qui avaient un espèce d'écho avec le mépris social auquel le père avait été confronté, pour des raisons différentes d'ailleurs. Mais c'était important pour moi de mettre en parallèle ces deux moments, surtout pour faire voir l'obscénité finalement de ces débats. Puisque à l'époque, je vous rappelle que sur tous les plateaux de radio, de télé, il y avait des gens qui discutaient, des psychiatres, des curés, des anthropologues, des sociologues, pour savoir si des gens de la même société allaient avoir les mêmes droits. Ce qui était quand même d'une obscénité sans limite, et qui, cette obscénité était amplifiée par le deuil que moi j'étais en train de vivre, justement. Donc je voulais recontextualiser.
On ne saura jamais si votre père était au courant, s'il avait une idée là-dessus
Si, bien sûr qu'il était au courant, et ça l'avait pas gêné, si vous voulez. Enfin, ouais. C'était pas quelque chose qui était ni tabou, ni un problème, ni rien de tout ça, finalement. Et ce qui était paradoxal, parce que c'était vraiment un homme qui était né à une autre époque, mais qui avait cette ouverture sur le monde, sur les autres. C'était quelqu'un qui accueillait volontiers un étranger chez lui, qui volontiers ne jugeait pas les autres.
Auriane Joncourt, est-ce que vous avez d'autres coups de cœur à nous faire partager?
Écoutez, dans ce numéro de novembre
de Transfuge,
j'ai eu la chance de rencontrer Mircea Cărtărescu, écrivain roumain qui publie un des très très grands livres de cette rentrée, qui est Solénoïde.
En tout cas, très gros aussi.
Très grand, très gros, très ambitieux.
J'attendrai les vacances de Noël pour le lire.
Mais je vous assure que lorsqu'on plonge dedans, alors on fait une très longue plongée dans le Budapest, dans les sous-sols de Budapest, parce que c'est vraiment Mircea Cărtărescu, c'est l'homme du sous-sol, très imprégné par Dostoïevski, par Kafka. Il nous plonge dans une espèce de rumination d'un homme qui aurait pu être lui, si ce n'est que c'est un espèce de double noir, un double qui lui n'est pas devenu écrivain, mais qui raconte sa vie de professeur dans un collège à Bucarest, donc... juste après la chute du mur, un homme qui est habité par des fantasmes, et c'est là où Mircea Cărtărescu est exceptionnel, parce qu'il fait vivre cet imaginaire qu'il habite. Il est, si vous voulez, il y a des séances de lévitation, il parle avec des cafards géants. C'est un des très grands écrivains aujourd'hui de l'enfance, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, ça se passe dans un collège. Et ce sont des enfants qui sont à la fois assez malheureux, assez brimés par une institution qui les traite mal, qui les méprise, et en même temps qui ont cette puissance de l'imaginaire qui irradie le livre. Et voilà, c'est un livre comme il y en a peu.
Solénoïde, ça veut dire quoi?
Alors, solénoïde, c'est un objet qu'il invente et qui, raconte-t-il, eh bien, serait dans les sous-sols de Bucarest et permettrait à certains personnages de léviter.
Et c'est édité
chez Noir sur Blanc.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Merci d'être passé dans le réveil culturel, Anne Poli, pour votre premier
moment
remarquable et d'ailleurs très remarqué. La presse est unanime. Avant que j'oublie, c'est édité chez Verdier. Merci aussi à Auriane Joncourt.
Merci à vous.
À bientôt. Passez une bonne matinée sur France Culture. On se retrouve demain.